pour dire qui est Jésus. Nous allons d'ailleurs célébrer sa naissance dans quelques jours, je vous apprends bien. Saint Matthieu ouvre son évangile par la chaîne des générations qui conduisent jusqu'à lui. Nous avons lu d'ailleurs le début de l'évangile de Saint Matthieu cette semaine, avec cet enchantement successif. Et au terme de cette liste, apparaît Joseph. Et saint Matthieu nous dit que Joseph n'engendra pas Jésus, mais que Joseph, dans cette liste, est appelé l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Et l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin suit immédiatement cette liste généalogique. Et elle nous donne des renseignements précieux sur Joseph, sur sa vocation, qui est désormais inscrite à jamais dans l'histoire de l'humanité. Alors, ce matin, j'aimerais avec vous, pour nous préparer à Noël, accueillir le salut promis en Jésus-Christ en contemplant la figure de Saint Joseph. Vous savez peut-être qu'en 2020, il y a déjà quelques années, le pape François avait écrit une très belle lettre apostolique sur Saint Joseph, Patrice Cordet, en français, avec un cœur de père, et qu'il avait complété cette lettre un an plus tard par une série de 12 catéchèses, que je vous invite d'ailleurs à lire ou à relire. Et le pape François nous disait ceci: la figure de Saint Joseph, bien qu'apparemment marginale, discrète en arrière-plan, par rapport bien sûr à celle de Marie et de Jésus, représente un élément central de l'histoire du salut. Pourquoi ? Il rappelait, par exemple, l'étymologie de Joseph, qui signifie que Dieu augmente en émoi, que Dieu fasse grandir. Il s'agit donc d'un souhait, d'une bénédiction fondée sur la confiance en la providence de Dieu, disait le Saint-Père. Et il soulignait que toutes les actions de Joseph, dont on parle dans l'Évangile, sont dictées, et je cite le pape François, par la certitude que Dieu fait croître, que Dieu augmente, que Dieu agit. C'est l'étymologie de Saint Joseph, de Joseph. C'est-à-dire que Dieu, malgré toutes les difficultés et les aléas de la vie, Dieu poursuit toujours son dessein de salut. Alors reprenons l'histoire de Saint Joseph pour voir comment, à travers les aléas de la vie de Saint Joseph, eh bien, le salut est quand même venu dans le monde. L'histoire de Joseph, en fait, commence comme celle de milliards d'autres hommes. À un âge où il peut se marier, il tombe amoureux d'une merveilleuse jeune fille et il forme avec Marie le projet de se marier. Mais il apprend que sa fiancée, que Marie, est enceinte, alors qu'ils n'avaient pas vécu ensemble. Et vous savez, il faut rappeler que dans l'ancien Israël, le mariage, en fait, comportait deux phases, deux actes. La première phase, c'était l'équivalent des fiançailles officielles. La fiancée continuait à vivre dans la maison de son père pendant un an, mais était déjà considérée, nous le savons, comme la femme de facto de son fiancé. Et le second acte était le suivant: il y avait le transfert de la mariée de la maison de son père jusqu'à celle du marié au cours d'une procession festive qui parachevait le mariage, et puis les amis de la mariée l'accompagnaient. Et le fait finalement qu'avant d'aller vivre ensemble, Marie se soit trouvée enceinte expose Marie, nous le savons, à une accusation d'adultère. Cette culpabilité, dans la Bible, notamment dans le livre de Deutéronome, était punie par l'adultère. Donc, le rêve de Joseph se brise, s'écroule. Il rêvait de se marier avec Marie, son rêve se brise. Mais pouvait-il Saint Joseph douter de Marie? Pouvait-il croire qu'elle avait fauté? Toute la tradition de l'Église, d'Origène jusqu'à Saint Thomas d'Aquin, en passant par Saint Jérôme et Saint Bernard, répond à cette question en disant non. Joseph n'a pas pu douter de la fidélité de Marie. Et je ne résiste pas à vous lire un passage Saint Thomas d'Aquin qui commente justement, quand il commente l'évangile de Saint Matthieu, commente cet événement. Et voilà ce qu'il dit. Joseph n'a eu aucun soupçon et la pudeur, la chasteté de Marie. De plus, il avait lu dans l'Écriture que la Vierge concevrait. Il lui était donc plus facile de croire que la prophétie d'Isaïe s'était accomplie en elle que de penser qu'elle aurait pu se laisser aller à l'adultère. C'est pourquoi, se considérant indigne de cohabiter avec une si grande sainteté, il voulut la renvoyer en secret, comme lorsque Pierre dit à Jésus « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Mais Joseph n'a jamais douté de la sincérité de l'amour de Marie pour elle. Il savait que, en elle, se réalisait la promesse, la prophétie dont nous avons entendu le récit dans la première lecture. Une Vierge enfantera le Sauveur et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, en contemplant Saint Joseph dans l'Évangile, eh bien, regardons son mystère et accueillons-le. Joseph ne parle pas. Dans l'Évangile, on n'a aucune parole de Saint Joseph. Il ne parle pas, mais il agit. Alors, je vous propose de regarder ses actes. Que fait Saint Joseph dans l'Évangile? Premièrement, il souhaite se retirer. Se retirer pour ne pas être un obstacle à l'œuvre de Dieu. Il décide de s'effacer pour que l'action de Dieu puisse s'accomplir. En ce sens, il vit d'une manière particulière la vertu de chasteté. Dans Patrice Corbet, donc dans ce texte que le pape François a écrit sur Saint Joseph, le pape rappelle ce qu'est la vertu de chasteté. Je vous lis quelques passages. Nous sommes au numéro 7. La chasteté, nous dit Saint-Père, Joseph est un homme chaste, la chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment amour. Et le Saint-Père continuait en disant « La logique de l'amour est toujours une logique de liberté. » Et Joseph a su aimer de manière extraordinaire, extraordinairement libre. Il ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. C'est pour ça qu'il souhaite se retirer et laisser la première place à Dieu, laisser la première place à Jésus et à Marie. Cela devrait nous interpeller aujourd'hui. Sommes-nous suffisamment chastes dans nos relations les uns avec les autres pour laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir et ne pas mettre la main dessus? Sommes-nous assez humbles pour ne pas nous attribuer une place, une responsabilité qui n'est pas la nôtre? Savons-nous laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir dans l'âme, le cœur, la vie des autres, en nous tenant admiratifs et émerveillés, mais dans une juste distance? Posons-nous ces questions en contemplant l'attitude de Saint Joseph. Deuxièmement, que fait Saint Joseph après le fait de s'effacer? Il accepte de se remettre en cause et d'entrer dans le dessein de Dieu chez Marie, son épouse. En fait, si vous regardez bien, Dieu ne demande pas à Saint Joseph son avis. Il lui fait part de son projet, il lui fait part de son dessein. Vous savez peut-être que dans la Bible, il y a plusieurs passages où on interpelle l'homme de la sorte « Qui es-tu, ô homme, pour discuter avec ton Créateur ?» On trouve ces interrogations dans le livre de la Genèse, dans le livre d'Isaïe, dans la lettre aux Romains. Qui sommes-nous pour discuter avec notre Créateur? Cela devrait aussi nous interpeller. Sommes-nous disponibles pour faire la volonté de Dieu, même si elle ne va pas dans notre sens? Sommes-nous dociles à la volonté de Dieu? C'est-à-dire que lorsque nous avons découvert sa volonté, est-ce que nous l'acceptons pleinement? Est-ce que nous l'acceptons facilement? J'allais dire facilement au sens étymologique du terme. Est-ce que nous ne mettons pas d'obstacles? Est-ce que nous sommes dociles? Troisième action de Saint Joseph, après le fait qu'il se retire, après le fait qu'il accepte aussi docilement la volonté de Dieu, eh bien on dit que Joseph était qualifié d'homme juste. Il veut s'ajuster à la volonté de Dieu, et il le fait grâce à une de ses grandes qualités qui est son silence. Joseph c'est un homme de silence. Et le silence de Joseph le rend capable d'obéir. En amont, avant d'avoir, j'allais dire, cette manifestation divine, en amont, le silence de Saint Joseph, qui l'habite depuis le début de son existence, le rend disponible à la volonté de Dieu. Nous aussi, essayons d'être des hommes et des femmes de silence pour écouter, entendre la volonté de Dieu et y être disponible. En amont de cet événement, mais en aval, que se passe-t-il? Ce silence chasse en lui des paroles inutiles qui pourraient parasiter son oui, son fiat. Il ne conteste pas ce que Dieu lui dit. Il ne conteste pas le projet de Dieu sur Marie, sur Jésus et sur lui-même. Il ne murmure pas. Simplement, comme c'est un homme juste, il cherche à s'ajuster. Et Matthieu le dit dans une phrase lapidaire, lorsque Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Donc Joseph est un homme de silence, mais c'est aussi un homme d'action, parce qu'il agit véritablement. Eh bien, nous pouvons nous aussi nous poser des questions. Sommes-nous toujours ajustés à la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à agir quand nous connaissons la volonté de Dieu sans murmurer contre sa volonté? Et puis enfin, on pourrait dire que l'Évangile ne parle pas d'un cantique d'action de grâce de Joseph, on le demanderait, mais ensuite un cantique magnificat d'action de grâce de la Vierge Marie. Mais Joseph a certainement rendu grâce pour cette visitation de l'ange. Lui aussi a eu, j'allais dire, son annonciation, il a été visité par l'ange. Pourquoi il a rendu grâce? Car finalement, son désir d'aimer Marie a été confirmé par Dieu lui-même. Comme un pauvre, Saint Joseph avait tout remis à Dieu, et Dieu va lui donner au centuple. Il avait choisi pour épouse Marie une simple fille d'Israël, et Dieu lui a donné comme épouse la mère de Dieu. Finalement, quand nous faisons la volonté de Dieu, Dieu donne au centuple. Et donc, Saint Joseph se rappelle que Dieu est puissant, que Dieu est Dieu seul, est capable de réaliser des choses qui nous dépassent, comme la conception virginale d'un enfant, la résurrection d'un mort. Jésus lui-même va ressusciter ou réanimer la fille d'un centurion romain, le fils de la veuve de Naïm, va ressusciter aussi Lazare. Dieu est capable de choses extraordinaires, comme ce que nous allons vivre dans quelques instants, le mystère de la transsubstantiation, c'est-à-dire du changement de la substance du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. Et comme il sait que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, que l'homme ne peut pas faire, eh bien, il accepte d'entrer humblement dans le dessein de Dieu, car il sait qu'en suivant la volonté de Dieu, il pourra faire des choses qu'il n'aurait pas pu faire par lui-même. Posons-nous encore cette question. Est-ce que nous croyons que Dieu peut tout faire dans notre vie, dans notre existence? Est-ce que nous croyons que rien n'est impossible à Dieu, ou plutôt qu'avec lui, tout est possible et qu'il n'y a jamais d'impasse définitive dans aucune vie humaine? Si nous acceptons de laisser passer le Seigneur devant, si nous acceptons de confier nos difficultés, nos fragilités au Seigneur, Saint Joseph peut être un grand intercesseur, il peut être un grand soutien et un grand guide pour chacun d'entre nous lorsque nous traversons des moments difficiles dans notre existence. Alors oui, il est bon de contempler cette figure de Saint Joseph. Joseph qui nous fait vraiment entrer, à quelques jours de Noël, dans ce mystère de l'incarnation, un mystère qui nous dépasse. En fait, on est tellement habitué à dire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, qu'on ne voit même plus la chose qui est inouïe. C'est inouï de se dire qu'un homme est aussi Dieu que Jésus. Et vrai Dieu et vrai homme, car il est né de la race de David selon la chair, dit saint Paul, et il a été établi fils de Dieu selon l'Esprit. Par son oui, par son fiat, car il y a aussi ce fiat de Joseph, un fiat silencieux, mais un fiat bien réel, eh bien, Joseph permet à Jésus d'entrer dans la lignée de David. même si on pense que Marie était sans doute de la descendance de David par son père, Joachim, il n'empêche qu'on dit que Jésus est le fils de Joseph, qui est aussi le fils de David. Il entre donc dans la lignée de David grâce au oui de Joseph, et il est ainsi reconnu comme Messie et comme Sauveur. Et dans quelques jours, nous allons accueillir dans notre cœur, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je vous souhaite, d'ouvrir notre cœur pour accueillir le Sauveur du monde. Nous le savons, Jésus, comme on l'a rappelé dans l'Évangile, signifie Dieu sauve. Mais vous savez qu'en hébreu, eh bien, il y a une double signification de ce mot sauver. Sauver, ça veut dire tirer d'un mauvais pas, d'une situation difficile. Donc, Jésus vient nous sauver du mal et du péché et de la mort. Mais la deuxième chose, c'est la deuxième signification en hébreu, sauver signifie faire vivre, donner la vie. Si on sauve quelqu'un et qu'on ne lui donne pas la vie, ça ne sert à rien. On n'a fait que la moitié du chemin. Alors cet enfant, ce Jésus qui vient nous sauver, il va nous communiquer la vie même de Dieu. Car nous sommes faits pour vivre de cette vie même. En contemplant Saint Joseph, sa vie, son attitude, eh bien, puissions-nous accueillir d'une manière renouvelée cette affirmation si connue des pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Rendons grâce à Dieu pour un si grand don, ce don de la divinité qu'il veut partager avec chacun d'entre nous.